et bienvenue dans l'émission Lire des livres. Aujourd'hui, lecture d'un extrait de Jean le Bleu de Jean Giono.
Je me souviens de l'atelier de mon père. Je ne peux pas passer devant une échoppe de cordonniers sans croire que mon père est encore vivant, quelque part dans l'au-delà du monde, assis devant une table de fumée avec son tablier bleu, son tranché, ses lignoles, ses haleines, en train de faire des souliers en cuir d'ange pour quelque dieu à mille pieds. Je connaissais les pas nouveaux dans l'escalier. J'entendais ma mère qui disait en bas « C'est au troisième, montez, vous verrez la lumière. » Et la voix qui répondait « Grazie, signora. » Et puis les pas. Ils trébuchaient tous sur cette marche de grès, en arrivant presque au premier. Le palier tout descellé cliquetait sous les gros souliers, les mains s'appuyaient aux deux murs dans l'ombre. « En voilà un, » disait mon père. L'homme cherchait la poignée de la porte. Elle était cachée et un peu folle. Elle n'ouvrait pas du premier coup. « Putana !»« C'est un romagnol, » disait mon père. Et l'homme entrait. Je me souviens qu'il leur donnait toujours la chaise près de la fenêtre, puis qu'il relevait ses lunettes. Il se mettait à parler en italien à l'homme assis, carré, les mains aux cuisses, tout parfumé de velours neuf et de vin. Des fois, c'était long. Des fois, le sourire venait presque tout de suite. Mon père parlait sans geste, ou bien à geste lourd, parce qu'il avait un soulier dans une main et dans l'autre main, le tranché. Il parlait tant qu'il n'avait pas vu le sourire. L'autre avait beau sortir des papiers, taper du dos de la main sur les papiers, porca Dio, tant que le sourire n'était pas venu, mon père parlait, et des fois, l'autre disait alors dans un souffle « Che bellezza !» Puis il souriait. Il ne venait d'ailleurs pas tout de suite chez mon père. Je ne sais même pas par quel miracle ils y venaient. Cela devait se transmettre chez eux comme une science d'hirondelle, ou bien marqué dans quelque coin de l'auberge, gravé au couteau sur le mur. Un signe, un rond et des croix, une étoile, un soleil, une chose qui devait dire dans leur langue malheureuse « Allez chez le père Jean ». Un signe qu'on ne devait voir que lorsqu'on était perdu, perdu comme de pauvres petites souris, un signe qui devait être marqué sur le mur à pleurer, le mur où on s'appuyait du coude pour pleurer. On s'appuyait pour pleurer. Et puis on devait voir le signe gravé dans la pierre et on venait voir le père Jean. D'abord le sourire. Ensuite, mon père écrivait des lettres au roi d'Italie. À cette époque, j'avais grande confiance aux lettres au roi d'Italie. J'admirais cette humble planche de cordonnier, cet encrier d'un sou, ce porte-plume où la plume était liée au bois par une soie de porc. Et puis la main de mon père, toute mâchurée d'égratignures noires et qui tournait lourdement en écrivant « Sire, maintenant je sais, père, c'est toi seul qui faisais les miracles. Montez, vous verrez la lumière. » Ce soir-là, nous allions descendre. C'était l'heure de la soupe en plein. Mon père avait déjà la lampe de cuivre à la main. « Attends, » dit-il. On chantait dans l'escalier. Et c'était un pas, sûr et rapide, un pas qui y voyait en pleine nuit par prescience, qui connaissait l'aplomb des êtres. « Je me demande qui c'est, » dit mon père. L'autre venait vers nous à travers la nuit et les murs et les ombres sonores de notre couloir et le mystère religieux de notre ancien couvent de maison. Il chantait. Qui ça peut être ? C'était un bel homme, jeune et blond. Il emplissait toute la porte. Un gros béret de bure marine, tiré en pointu au-dessus de son front, faisait autour de sa tête une auréole en forme de cœur. « Torino ?» dit mon père. « Turin, oui, » dit l'autre, en un français à peine un peu piqueté. « Commune de San Benedetto. »
Il se mit à parler tout de suite. Il n'y avait pas pour celui-là ressource du sourire. Il souriait de tout son large. Il n'était que sourire. Il avait en même temps une telle aisance de gestes, un balancement si huileux du torse, un éventement si sûr de ses longs doigts. Il avait tant d'équilibre à être beau, jeune et blond, qu'il envoûtait par la seule grâce de son mouvement de vie. « Christou !» disait-il. « C'est peut-être moi le plus malade. Ça m'a été dit de venir vous voir. C'est ici ?»« Oui, c'est ici, » dit mon père. L'homme regarda ce pauvre atelier noir, avec sa litière de hachures de cuir et les grandes chandelles de toile d'araignée qui pendaient du plafond. « Explique-toi si ça presse, sinon reviens demain. Tu vois, on allait descendre à la soupe. » « J'ai vu, » dit l'homme. La table est dressée en bas, mais la patronne m'a dit de monter. « Eh oui, ça presse. Alors ?»« Oh, même trop, » dit-il. « Après, vite !» Du temps qu'ayant lâché de l'œil le jeune homme blond, il tirait le tabac de son cornet. Je comprenais mal ce que disait l'homme. Ça coulait de lui comme une chanson plaintive, un gémissement de chien affamé de caresses. Mon père retira la pipe de sa bouche. « Pauvre couillon !» dit-il. Il le disait à cet homme blond qui tout d'un coup parut cassé et mort, comme si on avait fouillé dans son ventre à plein doigt et retirer le petit mécanisme qui faisait aller les doigts et la langue dans le bel ordre séduisant. Mon père resta un moment à regarder l'homme immobile et muet. « Tu t'appelles ?»« Johan. » Il prit la lampe. « Viens manger la soupe avec nous. » On descendit, moi second, l'escalier où mon père portait la lumière. Derrière moi, le pas de Johan. Chercher les marches. Il s'embroncha. Il se retint à mon épaule. « Perdun, boccia !» J'entendis qu'il disait humblement à voix basse.
« Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii. Ad te suspiramus, gementis et
Mon premier commerce avec une vierge eut lieu devant tout un peuple assemblé, un lundi de Pâques, au fond d'un verger d'amandiers en fleurs. Je veux dire, mon premier commerce important. L'école couventine était, comme il se doit, soutenue moralement, pécuniairement et bellement par tout ce qui se promenait en poule de soie dans la ville. La notairesse, la pharmacienne, la commandante en retraite, l'huissière, la propriétaire foncière, la juge de paix, les greffières, les longues enfants de Marie, les joueuses de harpe, tout ce qui était demoiselle en sucre, Delphine, Clara, la troupe des yeux baissés et des mains en mitaine, tout ce qui se corsetait en baleine de parapluie, tout ce qui marchait à la héronnière était du parti du couvent. Nourrissait, astiquait, lustrait. Le couvent comme une bonne bête fournisseuse de gloire et de lèche à longue plaine. On peut s'étonner que mon révolutionnaire de père ait consenti à me donner à cette école. Au moment de la décision, il avait été rien moins que de pain quotidien. Mon père était âgé, il travaillait seul, s'il travaillait bien et seul, dans sa haute chambre sombre, dans le fond de sa maison, sa boutique, sans devanture, seul avec son métier. Il était l'esclave de la ville. La paire de souliers coûtait 20 francs. C'était fait et c'était solide. Et comme il disait, on était sûr de marcher sur du cuir. Mais, à cette époque, pour être sûr de marcher sur du cuir, il fallait être de la haute. On lui avait gentiment mis le marché en main. « Ce bel enfant, » avait dit la dame, qui était entrée à l'atelier en se bouchant le nez et qui, là, n'était assise que sur une impondérable partie de la chaise. « Ce bel enfant si délicat et qui ressemble tant à sa mère, vous n'ignorez pas, monsieur Jean, qu'avant de se marier avec vous, mademoiselle Pauline a fait partie de nos congrégations et, j'ose le dire, avec tant de zèle que nous avions toutes conçu de grands espoirs. Elle s'est mariée à son aise. Nous n'avons jamais voulu influencer personne et nous savons que vous êtes bon pour elle, malgré votre différence de religion. » Mon père l'arrêta de la main. « Il n'y a pas de différence, madame. » « On dit, poursuivit-elle, que vous êtes protestant. » « Je le serai, dit mon père. Je l'avouerai sans aucune honte. Mais je dois dire que je ne le suis pas. Et ce qui a pu le faire croire, c'est que je lis la Bible et que j'en parle. En réalité, je ne suis rien. Je crois en Dieu. Et si je diffère d'idée avec ma femme, c'est seulement sur ce point. » Qu'elle croit que Dieu a créé des succursales et des bureaux sur la terre avec des bureaucrates et des employés qui délivrent des billets vers lui. Et que moi, je me suis imaginé qu'il était assez grand pour faire tout de lui-même et que d'ailleurs, quand on avait besoin de lui, on le trouvait partout. La madame bougea la tête et la plume d'autruche de son chapeau fit le guignol avec son ombre sur le mur. « Nous savons, » dit-elle, « vous êtes quand même un brave homme, et ça n'est pas pour un peu d'extravagance. Pauline nous a dit que vous la laissiez aller à la messe. »« Elle est libre, » dit mon père. « Remarquez, dit la dame, que nous avons été très gentils, nous aussi. À cause de Pauline, on vous a donné le meulage du couvent. » Mon mari vous a commandé ses bottes de chasse et je sais que madame de voudrait vous parler au sujet d'un vieillard de l'hospice auquel elle s'intéresse et qui aura bientôt besoin de faire arranger ses chaussures. Au fond, dit mon père, de quoi s'agit-il ? Voilà, dit-elle, vous savez que nous avons à Saint-Charles une école. Vous avez assez de bon sens pour savoir qu'il n'y a aucune comparaison à faire entre l'éducation et l'instruction que peuvent donner les bonnes sœurs et ce qu'apprennent les institutrices de la laïque, n'est-ce pas ? On garde les enfants jusqu'à 6 heures. Il y a des jardins. Et la pension est de 20 sous par semaine. « Pauline est libre, » dit mon père. Suivit un silence où seule se mit à craquer la semelle de cuir que mon père cousait. La dame dit « Au revoir !» J'allais l'éclairer dans l'escalier. Elle descendit chez ma mère. Mon père avait dit, « S'il est de ma race, il fera son compte tout seul. Envoie-le si ça te fait plaisir. » Cette fois-là, ce furent ma mère et ma marraine qui m'amenèrent à l'école. Mon col était plus blanc et plus empesé que jamais, et ma lavalière, si bleue que mes yeux, bleus d'ordinaire, était ce jour-là comme deux petites boules de cendre.
Je devais réciter les hommages à la Vierge. On n'avait pas eu besoin de me recommander le secret à la maison, et de me dire de n'en pas parler à mon père. Il me suffisait d'être à proximité d'un mystère pour qu'aussitôt je devienne l'enfant silence lui-même. Tout ce qui touchait les au-delà de l'air, je m'en sentais intimement amoureux, comme d'une patrie, comme d'un pays jadis habité et bien aimé, dont j'étais exilé, mais vivant encore tout entier en moi. J'avais la conscience d'être en ce savoir beaucoup plus fort que les grandes personnes, et je connaissais tel jeu de l'ombre devant lesquels Antonine et les deux Luisa auraient fui, et que j'avais considéré de plein pied, avec seulement une petite flamme de glace au pointu de mes fesses. Il m'en était venu une sorte d'orgueil surhumain. Si Jésus, la Vierge et même Dieu le Père m'étaient apparus, s'ils avaient fait de moi leur compagnon sur la terre, je n'aurais pas crié comme Jeanne d'Arc ou Bernadette. Le monde continuera à n'en rien savoir. Cela m'aurait paru tout naturel. Deux petits garçons et deux petites filles portant des oriflammes se mirent en carré autour de moi. Ils me regardaient du coin de l'œil et la terreur palpitait dans leur regard comme une grosse mouche. Sœur Dorothée me regarda aussi avant de s'effacer dans l'entrebâille de la porte des cuisines. « Adieu, adieu !» il semblait qu'elle me disait. La nef qui allait m'emporter vers le mystère se formait toute seule autour de moi sur l'ordre des grandes forces invisibles. Je n'avais plus de petits camarades ni d'amis. Ils n'étaient plus que les planches du navire. Ils venaient autour de moi s'amasser et se joindre pour me porter, et les clous d'or des cierges allumés frémissaient comme les chevilles des voiliers quand la mer et le vent commencent à lécher. Seuls, les armateurs et les commanditaires étaient tranquilles. La supérieure ordonnait le cortège, redressait un drapeau, penchait un cierge, tapait du doigt sur une joue, souriait à la jeune Catherine de Fédère et s'agenouilla même devant elle pour déplisser un volant de la belle robe en moire blanche. Il s'agissait bien de ça. Tout compte fait, c'était moi le chef, je pensais. C'est moi l'important là-dedans. Qui prendra la parole au débarqué dans l'au-delà? Qui s'avancera le premier sur la plage solitaire au-devant de la Vierge? Qui supportera le grand regard divin? Qui est la victime, somme toute? Moi? Bon, alors ne serait-il pas plus sage de me prendre un peu seul, hors de l'équipage? De me tirer derrière un rouleau de corde ou un tonneau de goudron et de me faire, là, à l'aise, les bonnes amitiés qui donnent du courage? Ne serait-il pas plus sage de faire ça que de caresser une quelconque Catherine de Fédère qui n'était là que comme pavillon de poupe? Tiens-toi tranquille, me souffla ma mère. On ouvrit la porte du jardin. Le soleil et le printemps se battaient là-dehors à coups de vent tiède, les fleurs d'amandier volaient de tous les côtés. Un coup de claquoir, et la carène d'enfant glissa dans la mer.
À notre tendre mère, partons nos cœurs meurtris.
Les orgues soufflaient à pleine gorge. Mon cœur n'était pas meurtri. Il était tout chatouillé, tout caressé, tout épanoui, comme s'il flottait dans la mer à côté du navire. Le mouvement, la cadence des pas, ce vent du navire qui nous avait battus par tribord, en soufflant d'un coup tous les cierges. Tous les enfants avaient crié « Ah ! Ah !» comme des oiseaux de mai. Tout donnait de la chanson à notre beau départ. Nous étions dans le jardin, en plein jardin. Certes, je reconnaissais le paysage familier, les buis, les grands figuiers, les lauriers roses, mais toutes fenêtres ouvertes, la maîtrise chantait dans l'orgue.
À notre tendre mère, partons nos cœurs meurtris.
Les oriflammes battaient des ailes comme de grosses colombes. On se faisait passer de rang en rang derrière moi des torches de lavandes enflammées. et j'entendais courir dans les arbres les grosses servantes de la Vierge qui devaient crier vers elle « Madame, Madame, ils arrivent !» Nous arrivions. Comme tous les jours, la Vierge était sur son piédestal. Elle était en pierre à tombe, toute pertuisée par la pluie. Et je savais qu'en temps ordinaire, voilà ce qu'elle faisait en temps ordinaire. Je m'étais approché d'elle un soir. Il faisait du vent, comme toujours. Un vent à caprice, tantôt froid comme de l'eau, et d'autres fois, il vous chauffait les joues comme de la braise. La Vierge en pierre tendre était toute usée de pluie. Le vent la faisait chanter. Aujourd'hui, elle se taisait. Il y avait trop de monde. Moi qui la connaissais, je sentais bien qu'elle n'était pas comme d'habitude, que ça n'était pas le jour, que nous tombions mal, que si elle avait eu le temps, elle nous aurait fait dire par sa bonne qu'elle était malade, comme faisait ma marraine des fois. Le mieux à faire était de se retirer sur la pointe des pieds, de s'en aller, de fermer les portes et les fenêtres, d'arrêter l'orgue et de la laisser se soigner dans sa maison des arbres, au douillet du soleil et des fleurs. Je ne commandais pas, moi qui savais, et ça ne faisait pas l'affaire de ceux qui avaient payé l'expédition. J'étais déjà seule devant elle. Les autres, là-bas, rangés en silence, attendaient. La supérieure me regarda. « Allez, mon petit !» elle dit. Je levai les yeux vers la Vierge. « Bonne mère !» je dis. « Vous qui êtes la belle grenade ouverte et l'orange mûre !» J'éclatais en sanglots et je criais. « Elle est morte ! Elle est morte !»
Sans rien de particulier, dans un village dont le nom m'a échappé. Il faisait des souliers, si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Un professeur, un simple professeur, qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Qu'un tout petit bonhomme, mal habile et rêveur, un peu loupé en somme, se croyait inutile, banni des autres hommes. Il pleurait sur son saxophone. Il y mit en temps de larmes et de douleurs, les rêves de sa vie, les prisons de son cœur. Et loin des beaux discours, des grandes théories, inspirées.
jour après jour de son souffle et de ses cris.
C'était l'émission Lire des livres avec une lecture de Jean Le Bleu de Jean Giono, lue par Sylvie et Suzanne. Merci de votre écoute et à bientôt.
Il changeait la vie.